C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de l'autre amant. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je tombe Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition, d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Et on est ravis ce soir de vous retrouver pour cette deuxième saison de Museum Side. Alors le principe reste le même, une fois par mois, le dimanche à 20h, on vous emmène parcourir la capitale pour dénicher pour vous les expositions du moment qui valent le coup d'œil. En première partie, on décrypte une grande expo parisienne en compagnie d'un des artistes ou du commissaire. Et en deuxième partie, on analyse tout ensemble une deuxième expo en débattant, en critiquant, en admirant, mais surtout en vous expliquant son propos. Petite nouveauté parce qu'il en faut, Agathe et Marion nous ont quittés pour voguer vers de nouvelles aventures et nous accueillons Galadriel, historienne de l'art et guide conférencière. Elle rejoint le navire pour nous proposer sa vision experte du monde de l'art. Bonsoir Galadriel.
Bonsoir.
Charlotte est toujours là, journaliste spécialisée dans la musique et cette année, sa chronique se focalisera sur les expositions musicales, justement. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Florence.
Et Marie-Hélène, toi tu es journaliste plutôt en télé et ce que tu aimes, c'est la photo. Tu continues donc ta chronique sur des expos photos, mais tu zoomeras chaque mois sur une œuvre en particulier qui t'intéresse. Bonsoir Marie-Hélène.
Bonsoir.
Et on a toujours derrière la vitre notre réalisateur Louis-Julien, breton, amateur de bière normale, qui continue avec nous pour une deuxième saison. Salut Louis-Julien.
Bonsoir.
Et ce soir, pour la première de la saison, nous accueillons Sonia Voss, commissaire de l'exposition Beau doublé Monsieur le Marquis de Sophie Cal et son invitée Serena Caron au musée de la chasse et de la nature jusqu'au 11 février 2018. En deuxième partie, nous parlerons de l'exposition Être moderne, le MoMA à Paris, à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 5 mars 2018. Mais tout de suite, avant ce beau programme, on écoute la chronique de Marie-Hélène.
La cour d'une ferme déserte, le café du village dans la brume hivernale ou l'intérieur d'une maison à la décoration désuète. Au fil des photographies, la campagne de Raymond Depardon se dévoile en noir et blanc. Au premier étage de la fondation Henri Cartier-Bresson, une partie intitulée « La terre natale » revient entre autres sur cette vie rurale dans laquelle Depardon a grandi. On y retrouve des photos prises dans les années 80 et dans les années 50, les premiers pas du photographe alors âgé de 16 ans. Face à la théorie de l'instant décisif portée par Cartier-Bresson, Depardon se place dans une photographie des temps faibles où il ne se passe rien de particulier. Plutôt que de prendre des images à la sauvette, il part en immersion dans ses campagnes pour mieux les observer. Pour se faire une place parmi les paysans et gagner leur confiance, puis entrer dans leur intimité. Cette série dans la ferme familiale du Garret est intéressante parce qu'elle symbolise les débuts de Depardon, mais également un retour à ses racines. Avec le recul, il regrette de ne pas avoir pris le temps de photographier cette vie rurale à l'époque, quand il a préféré partir couvrir la vie parisienne. Dans l'exposition et dans le très beau livre aux éditions Barral, on retrouve d'ailleurs cette citation marquante de Depardon. « Je me suis rendu compte en regardant le travail de Walker Evans que j'aurais pu faire avec la campagne de mon enfance, l'équivalent du travail qu'il a fait avec la dépression des années 30 aux États-Unis. » Un éternel regret qui a pourtant donné de très belles images, loin des clichés associés à la vie rurale. Ce sont des photos touchantes, d'une beauté simple, avec une belle composition et un jeu sur les ombres et les lumières. Un portrait de la campagne française de l'époque, isolée mais bien vivante. L'exposition Traversée est à découvrir jusqu'au 17 décembre.
est à découvrir à la Fondation Henri Cartier-Bresson.
Tout à fait.
On n'a pas précisé.
Oui.
Et l'exposition s'appelle comment ?
L'exposition s'appelle Traversée.
Super, de Raymond Depardon.
Je comprends pas ce que je vois.
Et c'est un véritable jeu de pistes auquel on se livre quand on pénètre dans les hôtels particuliers de Guénégo et de Montgelas, dans lesquels sont hébergés une bonne centaine d'animaux naturalisés provenant d'Afrique, d'Amérique et d'Asie au sein du musée de la chasse et de la nature, vous l'avez reconnu. On y voit aussi de nombreux objets d'art dans les vitrines, ainsi que des instruments de chasse, des sculptures, des peintures, et au milieu, des petits mots, des récits, écrit par Sophie Kahl. L'artiste y est exposé jusqu'au 11 février 2018 en compagnie de son invitée Serena Caron. Beau doublé, Monsieur le Marquis propose de redécouvrir aussi bien des œuvres anciennes qui l'ont fait connaître au début de sa carrière que des créations inédites. Au deuxième étage, on retrouve des photos d'inconnus que l'artiste, qui aimait mélanger intime et fiction, a pisté. Dans les vitrines, certains objets illustrent des aspects de sa vie. Une assiette avec une banane et deux boules de glace figurent le moment où un serveur lui a apporté ce dessert pour commencer son éducation sexuelle. Le journal intime de sa maman montre les quelques mots qu'elle y a inscrits avant de mourir. On se balade aussi dans le bestiaire de Sophie Kahl et Serena Caron, des poulpes, des chauves-souris en céramique. Et surtout, on apprend à connaître son papa, Bob Kahl, collectionneur à l'origine du carré d'art à Nîmes, dans cette belle exposition en hommage aux premiers spectateurs de son œuvre. Ce soir, nous recevons Sonia Voss, qui va lever une partie des mystères de l'exposition. Bonjour Sonia Voss.
Bonjour.
Vous êtes la commissaire de l'exposition de Sophie Kahl, Beau doublé Monsieur le Marquis, au musée de la chasse et de la nature. Alors cette exposition, c'est une des plus grandes, en tout cas en France, depuis la rétrospective de Sophie Kahl, donc au Centre Pompidou en 2003. Alors pourquoi avez-vous eu envie d'inviter au musée de la chasse et de la nature Sophie Kahl ?
Alors, moi, je suis en fait commissaire indépendante. J'ai travaillé une première fois avec le musée de la chasse et de la nature il y a 2 ans sur une exposition de photographie. Et c'est vrai qu'en découvrant plus en profondeur ce lieu tout à fait unique à Paris, j'ai pensé que c'était peut-être un lieu qui pourrait inspirer Sophie Kahl et dont certaines thématiques pourraient traverser son œuvre. Et voilà, je lui ai proposé d'y réfléchir et 2 ans après, l'exposition a lieu.
Alors pourquoi donc elle a décidé d'exposer avec une invitée, une de ses amies qui est également artiste, Serena Caron. Pourquoi a-t-elle voulu exposer avec elle ?
Alors Serena Caron est en effet une amie. C'est également une artiste qu'elle admire beaucoup, dont elle possède elle-même plusieurs œuvres. Et je pense qu'à la fois, c'était une façon de mieux s'imaginer comment vraiment se déployer dans toutes les salles du musée, puisque l'idée, c'était de lui réserver l'intégralité des salles, et à la fois de créer un dialogue. Enfin, voilà, l'amitié est quelque chose de très, très central dans son œuvre, comme dans sa vie, et c'était aussi une façon de nous inviter à regarder et à découvrir une artiste qui a peu exposé jusque maintenant.
Alors l'exposition s'appelle « Beau doublé, Monsieur le Marquis ». C'est un titre assez étonnant. Alors pourquoi ce titre ?
Alors en fait, c'est assez amusant. C'est une publicité pour les cartouches de la marque Gévelot qui a été diffusée à la télévision dans les années 70 et qui fait évidemment référence tout d'abord au fait qu'elles sont 2 artistes. Et puis qui joue comme ça, avec le caractère désuet du musée. Voilà, c'est une publicité dont on diffusera la vidéo en préambule de l'exposition afin que les plus jeunes qui ne se souviennent pas de la publicité comprennent également l'inspiration.
Alors, les travaux les plus connus de Sophie Kahl sont les différents jeux qu'elle avait mis en place au début de sa carrière. Elle pistait des inconnus comme un détective privé, elle présentait les photos et elle est même allée jusqu'à payer un détective pour la pister elle-même. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les mécanismes de la chasse ?
Alors, en effet, c'est un des traits récurrents de son œuvre qui nous a inspiré, enfin, qui nous a donné envie de l'inviter au musée. En 1980, c'est l'une de ses premières œuvres. Sophie Kahl a créé la suite vénitienne, qui est en fait le récit d'une filature d'un homme à Venise, vraiment dans laquelle elle consigne tous les faits et gestes de cet homme pendant plusieurs jours. Et cette œuvre est d'ailleurs exposée au 2e étage du musée, parce qu'on a vraiment souhaité montrer un petit peu ce geste inaugural qui est poursuivi encore aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, avec notamment 2 œuvres qu'elle a voilà, créé exprès pour l'exposition sur cette thématique de la chasse à l'homme, de la traque, de la piste.
Alors, ces deux œuvres créées spécialement pour l'exposition, c'est donc Le chasseur français et À l'espère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux œuvres-là?
Oui, alors ce sont deux séries de textes et de photographies qui vont puiser directement dans un matériau assez particulier qui est la petite annonce matrimoniale ou de recherche amoureuse. Les petites annonces, en fait, sont vraiment une forme littéraire, entre guillemets, qui est très appréciée par Sophie Calle, parce que ce sont comme des petits poèmes, c'est des choses très, très concises, très précises, très, vraiment, chaque mot est compté, chaque mot est utile.
Et puis ça révèle quelque chose de l'intime, du besoin de trouver quelqu'un.
Tout à fait. D'ailleurs, on est surpris en les lisant de voir à quel point elles sont directes, voilà, parfois très poétiques, parfois extrêmement
crues,
voilà, pragmatiques et crues. Voilà. Alors, Le chasseur français, c'est évidemment cette revue, vénérable revue, qui existe depuis 1895 et qui est particulièrement renommée pour ses petites annonces matrimoniales. Et Sophie Calle est allée puiser dans les archives du magazine pour aller chercher à travers toutes les annonces, enfin, à travers, mettons, une sélection d'annonces de 1895 à nos jours, quelles sont les qualités principalement recherchées chez la femme par les hommes à travers les époques.
Et on retrouve des qualités qui alors, n'ont pas bougé de...
C'est assez amusant, parce qu'il y a évidemment une évolution de mœurs qui est lisible à travers les décennies, mais avec une chose assez amusante et assez décourageante en même temps, qui est de constater que majoritairement, ce qu'on recherche chez la femme, c'est qu'elle soit gentille, arrangeante, simple et pas prise de tête.
Qu'elle n'en demande pas trop, qu'elle ne parle pas trop surtout. Et du coup, À l'espère
Et À l'espère, c'est également une série qui est inspirée par les petites annonces plus récentes cette fois-ci et trouvées principalement dans Libération. Dans ce réservoir de petites annonces, Sophie Calle est allée chercher celles qui font référence au monde de la chasse ou au monde animal. C'est du type panthère cherche femme aux yeux de biche dont il a perdu la trace, etc. Bon, enfin, c'est ce genre de choses assez amusantes et qu'elle est associée à des photographies de lieux d'attente. De sièges vacants, de bancs vides, pour évoquer un petit peu cet espoir, cette solitude et cette absence qu'on remplit d'espoir et d'attente. Et le titre À l'espère fait référence en fait à une technique de chasse très particulière qui consiste à attendre en un lieu donné que la proie se présente pour pouvoir la chasser.
D'accord. Alors, une des premières œuvres dans l'exposition, c'est donc un drap blanc qui recouvre une pièce mythique des collections du Musée de la Chasse et de la Nature, qui est un ours blanc.
Tout à fait. Alors, en préambule, j'aimerais dire que cette exposition qui est dédiée à son père, Bob Calle, décédé il y a 2 ans, est un peu hantée par ce thème de l'absence, du manque et du fantôme finalement, ou de la présence fantomatique voilà, de ceux qui nous ont quittés. Et c'est vrai que Sophie Calle a souhaité jouer avec cet emblème du musée qui est l'ours blanc qui accueille les visiteurs au premier étage. Ceux qui fréquentent cet endroit le connaissent bien. Elle l'a donc recouvert d'un drap pour le transformer en fantôme. Et a invité, comme elle a pu le faire précédemment avec une série sur les tableaux décrochés des musées, elle a invité plusieurs membres de l'équipe du musée, que ce soit de la conservation, de la comptabilité ou de l'accueil, à venir se présenter devant cette ours et à décrire ce qui se passe en dessous pour voir un petit peu comment cet animal continue à vivre dans le souvenir de ceux qu'il côtoie et quel spectre de sentiments il peut provoquer chez ces personnes.
Alors, donc, comme vous l'avez dit, la figure du père de Sophie Calle transparaît tout au long de l'exposition, et notamment dans le film Pêcher des idées chez votre poissonnier, où Sophie Calle dit que depuis qu'il est décédé, en fait, c'était le premier spectateur de son travail et elle a un peu perdu l'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa relation aussi avec son père et
oui,
dans
alors,
l'exposition
Bob Calle, le père de Sophie, était cancérologue, mais aussi collectionneur d'art. C'était un passionné d'art contemporain. Il était directeur du Carré d'art à Nîmes. Voilà, et c'est vraiment quelqu'un dont le regard comptait énormément dans le processus de création de Sophie. Elle raconte par ailleurs qu'elle est devenue artiste pour le séduire. Donc évidemment, son absence a provoqué un vide à cet égard-là également. Et elle raconte que effectivement, la panne d'inspiration l'a frappée à la suite de la mort de son père. Et cet été, pour l'anecdote, elle est passée devant un poissonnier à Arles et a vu une pancarte sur laquelle était inscrite « Pêchez des idées chez votre poissonnier ». Et elle s'est dit qu'elle aussi, elle pourrait peut-être aller voir son poissonnier pour trouver des idées puisqu'elle n'en trouvait plus elle-même. Voilà, et puis elle a filmé ça. Ça donne un petit film très amusant dans lequel le poissonnier propose qu'elle essaye de faire quelque chose avec des pots de saumon. Ce qui est assez drôle quand on connaît l'univers plutôt conceptuel de Sophie Kahl. Mais en revanche, Serena Caron, qui expose également avec Sophie Kahl, avait créé une très très belle pièce, un mur de saumon fabriqué en cire, qu'on a donc évidemment mis en regard de ce petit film pour faire un clin d'œil.
Alors la mort traverse toute l'œuvre de Sophie Kahl, et d'ailleurs dans l'exposition il y a son gisant. Elle a posé pour que Serena Caron lui fasse son gisant.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça?
Alors Sophie Kahl a une histoire assez tragicomique, on pourrait dire, avec le tombeau dans lequel elle sera enterrée. Longtemps, elle a voulu être enterrée au cimetière de Montparnasse parce qu'elle a grandi dans le quartier, qu'elle le traversait dans son enfance pour aller à l'école. Son père a été enterré là-bas. Donc, elle est allée chercher en Californie, à Bolinas, une concession qu'elle a d'ailleurs achetée. Et puis, entre-temps, elle a été invitée à faire une performance au cimetière de Genève et puis à Brooklyn, où à chaque fois, on lui a proposé également un emplacement. Donc, voilà, elle collectionne un petit peu maintenant les tombeaux potentiels. Et en évoquant cela avec Serena, elles ont eu l'idée de créer le gisant qui pourrait trôner sur le tombeau où elle sera finalement conservée.
Et puis tout autour, il y a donc les animaux naturalisés qu'elle collectionne. Ils ne rentrent pas ils ne font pas partie de ses œuvres, mais c'est ce qu'elle collectionne parce que ça lui renvoie aussi à des figures familières de sa vie.
Oui, Sophie Kahl a une grande collection d'animaux naturalisés chez elle. Ça, c'était un petit peu la surprise. Je ne le savais pas quand je lui ai proposé l'exposition. Je l'ai découvert en lui rendant visite pour la première fois. À la suite de cette invitation, elle a vraiment sa maison est remplie de magnifiques animaux naturalisés. Et à chacun de ces animaux, elle attribue un nom qui est celui d'un de ses proches ou d'un membre de sa famille. Et l'histoire, c'est qu'elle dit qu'à sa mort, elle aimerait léguer à chacun de ses amis l'animal qui lui correspond. Mais que faire de ceux qui sont morts? Et c'est là qu'elle s'est dit, eh bien, ceux-là, j'aimerais les emmener avec moi dans mon tombeau. Et du coup, pour l'exposition, elle les a tous emmenés avec elle dans les salles du musée, et ils l'accompagnent, en fait. Ils sont tous disposés autour de son tombeau et l'accompagnent avec bienveillance.
Alors, Sophie Kahl aime les histoires et surtout celles des gens, et elle met à la disposition un carnet pour l'œuvre « C'est qui ?». Qu'est-ce qu'elle propose ?
En fait, dans la première pièce, juste à côté du fantôme de l'ours, il y a une petite pièce qui s'appelle « C'est qui ?» et qui évoque une autre présence fantomatique, qui est donc celle de son père, où elle raconte que un an après la mort de son père, elle a composé son numéro de téléphone par mégarde, et qu'elle a reçu en retour un SMS qui lui demandait « C'est qui ?». Et de là, la question « Que faites-vous de vos morts ? Qu'est-ce qu'on fait avec... comment gère-t-on l'absence ? Comment gère-t-on dans la pratique, que fait-on avec les contacts, par exemple, de ces morts ? Est-ce qu'on les efface de son carnet d'adresse ou de sa base de données ? Est-ce qu'on les garde
Et puis sur les réseaux sociaux, sur Facebook,
exactement,
la question se pose aussi.
Comment gère-t-on
les traces numériques ?
Exactement. Et elle a donc conçu un livre d'or, hein, qui est par ailleurs illustré de très très belles photos de tombes qu'elle a prises un petit peu partout, de mausolées, enfin bref, un très très beau livre d'or dans lequel les visiteurs seront invités à consigner, s'ils le désirent, leur propre réponse à cette question ou leurs propres expériences.
Alors au premier étage, on a des œuvres un peu plus anciennes, comme Cœur de cible par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi ?
Alors, au deuxième étage, il y a deux modes d'intervention pour, voilà, pour Sophical, qui sont d'une part, effectivement, des séries existantes. Il y en a deux, principalement, Cœur de cible, qui est une série de portraits de délinquants fichés, utilisés pour l'entraînement au tir des policiers d'une ville américaine. Nous les avons disposés dans les vitrines des fusils. Une manière aussi de rappeler que ce musée est certes un lieu très ludique, rempli d'animaux, mais est aussi un lieu traversé par la mort et par le thème de la mise à mort. Voilà, c'est une installation qui est très forte. Et il y en a une autre qui est Liberté surveillée, qui est un peu plus, légère, un peu plus poétique, qui sont des prises de vue d'animaux par des caméras automatiques disposées dans ces passages qui sont au-dessus des autoroutes ou au-dessous des autoroutes et qui permettent aux animaux de les franchir et qui, elles, ont été disposées dans les tiroirs de la salle dite d'armes et que les visiteurs pourront découvrir un petit peu comme des surgissements dans la nuit en tirant les tiroirs au hasard de leur visite comme ils y sont invités. Donc ça, c'est vraiment deux séries existantes de Sophie. Et par ailleurs, il y a les histoires vraies, qui sont donc une série de courts récits autobiographiques et littéraires qui associent à chaque fois un texte et un objet. C'est un livre qui a fait l'objet de différentes rééditions, mais également une œuvre qui peut être réactivée en étant installée dans des lieux assez singuliers comme celui du musée. Et donc là, l'idée, ça a été de disposer parmi les pièces des collections permanentes tel et tel objet de façon parfois discrète, parfois assez iconoclaste. Et le visiteur pourra s'amuser à les détecter au cours de son parcours. Chaque texte étant signalé par un petit cadre fantasy. Et voilà, c'est une autre façon de
rentrer
faire
exister, dans son
voilà, de rentrer dans son monde. Et c'est aussi la gageure de ce musée, c'est de faire avec un lieu qui a une existence, une personnalité très très forte, sans le perturber trop, mais en même temps en y disposant des indices comme ça, d'une présence artistique.
Merci beaucoup Sonia Voss.
Merci.
L'exposition de Sophie Cal et de Serena Caron, son invité beau doublé Monsieur le Marquis, dont vous êtes la commissaire, est à retrouver au Musée de la Chasse et de la Nature jusqu'au 11 février 2018. Et donc nous sommes allés ensemble, Marie-Hélène et Charlotte, au vernissage lundi. Et on a croisé donc l'artiste Sophie Cal dans un escalier. Elle fuit un peu la presse et elle ne fait aucune interview. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas pu l'inviter dans l'émission. Et alors qu'est-ce que vous avez pensé, vous deux, de l'exposition ?
Moi, j'ai beaucoup aimé justement cette inversion du rapport de l'œuvre avec le spectateur, parce que d'habitude, quand on rentre dans le musée, l'œuvre, elle est déjà présentée à nous. Et là, c'était à nous, en tant que spectateur, d'aller chercher les petites œuvres cachées de Sophie Cal, les
dans
histoires
les
dans les cadres, voilà, dans les vitrines. Et du coup, quelquefois, c'était aussi un peu difficile de savoir à qui appartenait quoi. C'était un peu confus, mais c'était une ambiance qui était très originale dans cette exposition et un petit côté que j'ai bien aimé. Et aussi la partie du coup sur le chasseur français avec les annonces d'hommes qui recherchaient des femmes qui sont...
C'est étonnant.
Étonnante, ouais. Et on rigole bien quand même.
On rigole jaune, mais...
voilà.
Et toi du coup, Charlotte ?
Alors, je rejoins un peu Marie-Hélène. J'ai été un peu déconcertée par cette proposition d'aller chercher l'œuvre au milieu des œuvres du musée. Des fois, on ne sait même pas trop lesquelles appartiennent au musée et lesquelles à l'artiste quand on ne connaît pas le musée de la chasse et de la nature. Sinon, ce qui m'a marqué, c'est aussi cette omniprésence du père de Sophie Cal, Bob Cal, qu'on voit notamment au rez-de-chaussée où, comme la commissaire l'a expliqué, beaucoup d'œuvres sont associées à son souvenir.
À lui. Et tout de suite, on écoute Star Alfur de Sigur Rós.
C'était Star Alfur de Sigur Rós. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM, et nous sommes dimanche.
Pas de photos, pas filmé, évitez de parler.
Museum Side. Après la collection Chouchkine, la Fondation Louis Vuitton expose de nouveau une collection de chefs-d'œuvre, celle d'un des musées les plus connus au monde, le MoMA, Museum of Modern Art, à New York. À l'occasion de la rénovation d'une partie de ses espaces, le directeur du musée Glenn Lowry a choisi la fondation pour exporter une partie de ce qui constitue une des plus belles collections au monde. Être moderne, le MoMA à Paris a ouvert ses portes mercredi et Quentin Bajac, ancien conservateur en chef du département de la photo au centre Pompidou, aujourd'hui conservateur au MoMA et concepteur de l'exposition, a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions.
Alors pourquoi avoir mis en avant le mot moderne qui est une acception différente un peu pour chaque période? Pourquoi moderne?
C'est vrai que le moderne est un terme difficile à utiliser, mais c'est un terme qui a été très important pour la constitution du musée. Bien évidemment son nom, The Museum of Modern Art, et aussi parce que c'est le terme utilisé par les pères fondateurs du musée, par cette première et deuxième génération, qui l'opposait au contemporain en fait à l'époque. Il disait le contemporain c'est la valeur sûre, c'est l'académique. Et Alfred Barr, donc premier directeur du musée, opposait le terme de moderne. Le moderne pour lui c'était donc celui qui était de son temps, mais qui était aussi légèrement en avance sur son temps, qui incarnait des valeurs de singularité, d'originalité, un caractère progressiste aussi, qui était très important en termes de valeurs, presque on va dire politiques.
Alors que représente le MoMA dans l'histoire de l'art? Vaste question.
Ça représente un musée qui qui s'est identifié complètement à la naissance, à l'émergence et à la promotion de l'art moderne et contemporain. Ce qui est paradoxal, parce que d'une certaine manière, c'était pas le premier. Enfin, il y avait des musées en Allemagne dès les années 20 et 30, début des années 30, qui s'intéressaient vraiment à l'art moderne et contemporain et qui ont constitué un modèle important pour le MoMA. Mais c'est celui qui a constitué ça à une échelle sans précédent, en englobant quasiment toutes les disciplines, donc peinture, sculpture, le design industriel qui est là, les films, la photographie, etc. Et avec une politique d'acquisition extrêmement soutenue, dynamique, avec des moyens financiers aussi, il ne faut pas se leurrer, sans commune mesure avec d'autres institutions européennes ou même américaines. Et donc, qui a constitué ce qui est aujourd'hui considéré comme la plus belle collection d'art moderne et contemporain au monde, et qui a aussi assuré la promotion de l'art américain à partir des années 40, en soutenant notamment beaucoup le mouvement de l'expressionnisme abstrait, qui a été le premier, je dirais, mouvement d'art d'avant-garde spécifiquement américain.
Et du coup, comment avez-vous articulé l'exposition ?
Ouais, c'était un peu un défi, comment on articule, d'abord comment on rend compte d'une histoire d'une collection et d'une institution qui est forte aujourd'hui de 200 000 objets en 200 objets. Autour de certaines idées, la pluridisciplinarité qui était pour moi centrale dans l'histoire du MoMA et qui devait être là et bien là. Donc on a cette diversité qui est très bien représentée dans la collection. Je voulais aussi quelque chose qui n'embaume pas le MoMA, qui rende compte de son histoire et de son actualité. Donc on a d'une certaine manière le grand récit de l'art au XXe et XXIe siècle aussi, parce que le XXIe siècle est présent, donc qui va des années 1880 à des œuvres qui ont été créées l'année dernière, puisqu'on a quelques œuvres qui ont été créées en 2016 qui sont incluses dans l'exposition. Et puis voilà, et puis c'est un exercice que j'ai demandé aussi à mes collègues chefs de département s'ils devaient résumer leur département en une trentaine d'acquisitions, lesquelles choisiraient-ils ? Pour essayer en effet de croiser ces deux histoires, la grande histoire de l'art et puis l'histoire plus spécifique du MoMA.
Alors Galadriel, est-ce que tu veux pour commencer revenir un peu sur l'histoire du MoMA et sur les grandes expositions marquantes qui ont lieu dans ce musée ?
Oui, effectivement. Donc, c'est une exposition toute particulière qui se tient en ce moment à la Fondation Louis Vuitton dans un format un petit peu inhabituel puisqu'on pourrait parler de monographie de musée. Comme l'a bien évoqué Quentin Bajac, le parcours présente effectivement toute l'évolution du musée de manière chronologique depuis sa création en 1929 par trois femmes qui faisaient partie de l'establishment new-yorkais.
Ça, c'est étonnant, trois femmes.
Ma foi, des femmes très cultivées et collectionneurs qui avaient vraiment envie de s'engager pour promouvoir l'art moderne européen, mais aussi bien sûr américain. Donc c'était Lily Bliss, Mary Queen Sullivan et Abby Aldrich Rockefeller. Il faut savoir que le MoMA est un musée privé qui fonctionne avec le système des trustees comme la plupart de tous les musées américains. Et donc cette présentation chronologique est aussi bien sûr alliée avec l'évolution de l'art, des débuts de l'art moderne jusqu'aux créations les plus contemporaines. Cette exposition essaye donc de nous montrer comment le MoMA a créé une nouvelle typologie de musée d'art moderne. La première salle met en place vraiment cette création en 1929 et les engagements pour l'art moderne déjà établis avec des présentations de Picasso et de Brancusi par exemple, mais également cet art moderne américain avec le premier tableau de Hooper acquis dès 1930 à l'occasion d'une des toutes premières expositions de la jeune institution Painting by 19 Living Americans. Et nous voyons aussi tout de suite cette pluridisciplinarité qu'a évoqué Quentin Bajac avec des objets issus de l'industrie qui ont été exposés en 1934 à l'exposition Machine Art. Et c'est le début en fait de la collection de design.
C'est très étonnant parce qu'on voit des bouts de porte ou des boulons. Là, c'est vraiment du design technique.
Complètement, complètement. Nous avons une hélice, des boulons, et qui étaient présentés sur des socles très épurés comme des sculptures. Vraiment pour leur qualité visuelle, esthétique, mais bien sûr aussi fonctionnelle.
Oui.
Donc on y voit ici le début de la collection de design. Et dès les années 30, en 1932, il y a eu la toute première exposition qui présentait la photo artistique. Et en 1938, la première exposition monographique de Walker Evans, ce grand photographe.
Donc le MoMA est novateur sur plein d'expos à chaque fois. Première expo de photos, première expo du design, sur le design technique.
Exactement. Alfred Barr, ce jeune universitaire qui a été choisi pour être le premier directeur du MoMA en 1929, était bien conscient de l'importance des musées européens, d'ores et déjà. Mais là où il trouvait qu'il pouvait être en avance sur eux, c'était justement en ouvrant le musée traditionnel à ses formes d'art qui n'étaient pas encore considérées comme de l'art jusqu'ici. Donc la photographie, le cinéma, avec en 1935 la création de la Cinémathèque. Et finalement... Avant 1940, tous ces départements, incluant des nouveaux médias, avaient déjà été créés au MoMA.
D'accord. Et d'ailleurs, dans l'exposition, pardon, on voit une vidéo de Walt Disney.
C'est ça, tout à fait. Le Steamboat Willie, qui est le premier film mettant en scène Mickey Mouse, qui a été donné par Walt Disney au MoMA pour entrer dans la collection après que la première conservatrice de ce département de cinéma ait dragué les réalisateurs et des directeurs de studios hollywoodiens pour leur faire comprendre que leur art méritait aussi la place au musée.
Et c'était quand même... oui, c'est incroyable de voir... Elle a quand même vu en amont que ce Walt Disney deviendrait complètement culte alors que c'était très tôt.
Oui.
Quand même. Donc, alors du coup, les filles, vous avez sélectionné... Pardon, Galadriel, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Non, mais...
Juste pour revenir aussi sur la phrase d'Alfred Barr, qui a tenté d'expliquer sa vision de cette collection du Musée d'Art Moderne à ses trustees. Je cite... Une torpille qui avance à travers le temps et dont les éléments restent indispensables et indissociables. Son nez, le présent toujours en marche, sa queue à hélice, le passé en constant recul, mais indispensable, sa masse centrale, le temps présent, ainsi propulsé par l'hélice postérieure. Et en cela, le MoMA avait choisi de faire débuter sa collection avec le post-impressionnisme et Cézanne avec un recul de simplement 50 ans en 1929. Mais effectivement, on voit que malgré un engagement toujours de plus en plus fort et renouvelé pour la création contemporaine, l'ancrage dans le passé reste évidemment un point extrêmement important pour comprendre toute cette évolution.
D'ailleurs, on le voit bien parce que tout le rez-de-chaussée, c'est quand même une très très grosse partie sur tout ce qui est la base de l'art moderne.
Exactement, jusqu'à la présentation des expressionnistes abstraits et le moment finalement où on considère que la suprématie de l'art, la scène artistique est passée de l'Europe aux États-Unis. Mais une torpille, parfois en avançant, ça peut faire un peu mal, comme certaines des expositions présentées au MoMA. Les expositions Cubism and Abstract Art en 36, Art, Dada and Surrealism en 34, qui ont tellement bouleversé les codes de l'art entendu en Amérique qu'ils ont été rejetés par beaucoup d'amateurs, mais évidemment qui ont énormément influencé les artistes. Et même l'acquisition de Rothko en 1952 a fait démissionner l'un des trustees, considérant que c'était beaucoup trop radical.
D'accord, bon, c'est hyper intéressant, toutes ces petites anecdotes. Alors du coup, les filles, vous avez sélectionné chacune des salles qui vous ont marquées et sur lesquelles vous aimeriez revenir. Donc Charlotte, je me tourne vers toi. Toi, c'est les salles du début,
Alors, il me semble. Tout à fait.
Dont Galadriel a un peu parlé aussi.
Exactement, nous avons appris plein de choses très intéressantes. Je ne sais plus quoi dire, non. Donc je vais revenir un peu sur quelques-unes des œuvres marquantes des salles. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au début, on voit cette volonté d'aller vers des œuvres plutôt européennes. On s'inspire de ce qui se fait sur le vieux continent. Donc, avec des œuvres comme Picasso, Cézanne, notamment une très belle nature morte aux pommes que je vous recommande d'aller voir.
Et je crois d'ailleurs, dans cette salle, donc, il y a la fameuse sculpture de Brancusi. Et c'est la première fois qu'elle sort, qu'elle est exposée en France, si je ne me trompe pas.
Alors Brancusi après a fait plusieurs versions de chacune de ses sculptures, mais surtout c'est Bird in Space. C'est la fameuse œuvre qui a eu tant de mal à se faire reconnaître comme œuvre d'art. Quand elle a passé les douanes américaines, les douanes l'ont reconnue comme ustensile de cuisine et hospitalier. Et Brancusi a dû payer les frais de douane qui s'élevaient à 40% du prix de vente, quelque chose d'assez énorme. Il y a eu ensuite un procès et le juge a reconnu cette œuvre comme une œuvre d'art malgré le fait qu'elle était abstraite et qu'elle ne répondait à aucun des critères jusqu'ici préétablis. Donc ça a été la victoire de l'art moderne.
Parce que si on devait décrire cette œuvre, c'est quoi finalement ?
C'est un élan.
Un élan vers le ciel.
Élan vers le ciel, c'est évoquer l'envol de l'oiseau, effectivement. Donc ici, c'est la version qui est en bronze. Et on voit une forme abstraite très effilée qui s'élance de son socle.
Voilà, pardon, du coup, petit aparté. Charlotte ?
Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit tous ces grands courants européens comme le surréalisme, le dadaïsme, qui sont
la base
présents.
De l'art moderne.
Voilà, exactement. Donc, vous pourrez voir des œuvres de Dali, Magritte et aussi Frida Kahlo,
surréaliste, ouais.
Que dont nous avions parlé un peu l'année dernière à l'occasion de l'exposition sur le Mexique au Grand Palais. Ici, c'est son autoportrait aux cheveux coupés, qui est une œuvre très intéressante. Mais ce qui est très important, c'est effectivement ce côté novateur, comme tu l'as dit, Galadriel, qu'on voit à travers l'introduction du cinéma et de la photographie dans un musée. La photographie qui est très présente à travers les œuvres de Walker Evans, dès la première salle. Et on voit aussi des affiches, alors là on part sur autre chose au moment de la guerre, des affiches de propagande russe, aussi un film d'Eisenstein, et ça c'est intéressant car c'est vraiment...
C'est Potemkin.
Exactement, où on voit un enfant se faire piétiner par une foule qui descend des escaliers à toute vitesse, et c'est assez surprenant finalement d'avoir ce genre d'œuvre à cette époque dans un musée. Donc c'est pour cela que je trouve que c'est...
Puis cette année, il y a beaucoup de choses sur la Révolution russe, puisque c'est quand même le centenaire de la Révolution russe en 1917.
Tout à fait.
Je crois que d'ailleurs, l'expo insiste un peu sur ce côté-là, pour le centenaire, entre autres. Très bien, Marie-Hélène. Toi, c'était quelle salle qui t'intéressait ?
Moi, c'était les galeries 5 et 6, donc au niveau 1. Ce sont des galeries qui sont dédiées aux nouvelles formes d'expression développées à partir du corps et de l'identité, donc dès le milieu des années 60. C'était une époque très marquée par un contexte politique agité, avec l'émergence de mouvements contestataires. Et il y a aussi un focus sur la scène américaine des années 80-90. Donc dans cet espace, les artistes utilisent des matériaux pauvres ou insolites, ils utilisent parfois leur corps, et ils privilégient en général des formes fragiles, éphémères et plutôt immatérielles. Ce que j'ai aimé dans cette galerie, c'est la richesse qui s'en dégage. Il y a beaucoup d'artistes internationaux du coup, et de nombreuses productions très différentes. Les artistes s'interrogent particulièrement sur leur rôle en tant qu'artiste et celui de l'art dans la société. Il y a par exemple un dessin de Robert Smithson qui comparait le musée à un mausolée. Donc on a vraiment de tout. D'ailleurs, quand on arrive, on est accueilli par une vidéo de Yvonne Reiner qui fait une performance de danse minimaliste, donc dans un décor vide. Ça renvoie à une certaine recherche de dématérialisation de l'art et une volonté aussi de réinvestir l'espace du musée. On voit que de toute façon, là, les artistes cherchent à changer les frontières de l'art et aussi à s'affranchir du cadre muséal qui leur était proposé jusque-là. Donc j'ai vraiment plein d'œuvres qui me viennent en tête. On note l'intrusion par exemple du néon avec la sculpture de Bruce Nauman, l'utilisation de la lightbox par Jeff Wall. Et dans la galerie 6, du coup, on a aussi l'œuvre de Barbara Kruger qui témoigne d'un nouveau traitement de l'image avec des collages, des manipulations. Et elle, par exemple, vous la connaissez, l'artiste qui utilise l'esthétique publicitaire d'abord pour attirer le regard des spectateurs et ensuite proposer différents niveaux de lecture. Donc voilà, beaucoup d'œuvres très colorées qui attirent forcément l'œil. Et j'aimerais revenir aussi sur une œuvre qui a eu beaucoup de succès auprès du public qui était venu découvrir l'exposition. C'est celle de Félix González Torres. Donc il s'agit en fait d'un tas de bonbons empilés dans un coin de la salle. Donc ces bonbons sont emballés avec un papier de couleur du drapeau américain. Et le spectateur était invité à en prendre un parce que l'objectif était de faire disparaître l'œuvre progressivement. Donc voilà, tout le monde, les enfants, les adultes, tout le monde s'est servi, c'était assez rigolo à voir. Et cette idée de faire disparaître l'œuvre, c'était une idée fondamentale dans le travail de l'artiste parce qu'il avait été inspiré par son propre cheminement pour se détacher de sa maladie qui est le sida. Donc on a plein de réflexions sur le genre, les questions raciales, la violence et le sida à travers beaucoup d'œuvres qui sont très, très accessibles et très intéressantes.
Et alors comment ça se fait que dans les années 60, je me tourne vers toi Gabrielle, il y ait autant de remises en question du musée, du statut de l'artiste, ça correspond. Donc finalement, là, on monte, je crois, c'est au premier étage,
oui,
ou au rez-de-chaussée. Donc ces années-là dont vient de parler Marie-Hélène, comment ça se fait que là, on soit dans le conceptuel, dans le minimalisme?
Alors, dès le rez-de-chaussée, effectivement, les artistes tendent à aller un peu à l'encontre de, je dirais, la sacralité de l'œuvre d'art. Alors, c'est quelque chose qui avait déjà été traité, notamment par Dada et Duchamp, hein, avec ses fameux ready-made.
D'ailleurs,
bien.
D'ailleurs,
il y a le premier ready-made, la route bicyclette, qui est exposée.
Une route bicyclette, donc, sur un tabouret.
C'est ça. Et le niveau moins 1 se termine, on l'a évoqué, avec les expressionnistes abstraits. De l'abstraction donc, mais ces artistes américains qui mettaient très en avant à travers ces œuvres le corps de l'artiste, le ressenti, la contemplation et la sacralité derrière le geste et derrière les couleurs. Et bien, dès le niveau 0, on trouve les artistes minimalistes et le pop art notamment, qui eux font soit un retour à la figuration par le pop art, mais en utilisant des références quotidiennes, hein, du monde quotidien, de ce monde en plus qui devient en train consumériste, hein, avec vraiment les débuts de la société de consommation, ou une abstraction plus géométrique où ce qu'il y a à voir est ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'il
la
ne
boîte
faut
de soupe
pas
Campbell,
aller chercher une interprétation profonde derrière, une sacralité. Non, ce sont des artistes qui exalte, traite les matériaux et les couleurs en tant que tels. Vous pourrez d'ailleurs trouver dans cette salle une œuvre de Karl André.
Et les gens marchent dessus.
Exactement, ça fait partie d'une de ces floor pieces. Il s'agit de 144 carrés de plomb, donc disposés au sol. Et n'ayez pas peur de marcher dessus. Les gens, en général, l'évitent soigneusement. Ah oui, nous sommes dans un musée, on a appris à ne pas toucher. Mais cette œuvre a été faite pour marcher dessus. Et pour Karl André, elle sert de révélateur de l'espace et en fait crée un dialogue entre l'œuvre, l'espace et le visiteur.
D'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai marché dessus, du coup, mais je ne me sentais pas à l'aise. Et on était avec Charlotte et Charlotte n'a pas osé. Elle
j'ai
a mis juste un petit pied dessus.
L'œuvre. C'est une expérience assez déroutante, je reconnais.
Alors que c'est fait pour.
C'est fait pour. Et il y a plusieurs œuvres comme ça, justement, qui sont participatives. Karl André, Marie-Hélène a parlé de Félix González Torres. Et au niveau 2, également, le kiosque de Lélé Savery. Cette œuvre qui s'appelle The New Stand, qui est très, très récente. Elle date de 2013-2014. Où l'artiste avait installé un faux kiosque à journaux. En 2013, pendant 10 mois, dans une station de métro de Brooklyn. Et à l'ère de la dématérialisation, de la presse, des nouvelles et même des contacts, hein, et des relations entre les gens, au contraire, Lélé Savery venait renforcer encore la force d'une presse papier et d'un véritable échange entre les gens. Et ce n'était pas donc des journaux, des périodiques classiques qui étaient présentés dans ce kiosque, mais bien des œuvres d'artistes qu'ils souhaitaient proposer leurs œuvres dans ce kiosque. Et les gens étaient tout à fait invités à venir, à discuter et à acheter certaines de ses œuvres s'ils le souhaitaient. Alors, le MoMA l'a acquis en tant que tel. On trouve même, en fait, le carrelage blanc qui était dans la station de métro, donc autour. Hein, c'est vraiment... ici, on replace le kiosque dans le musée. Le visiteur est invité aussi à venir, à discuter, à regarder, à manipuler. Bon, maintenant, il n'est bien sûr plus autorisé à repartir avec les objets.
Ah, je me demandais si c'était possible quand même d'acheter...
Non. Voilà, ça fait partie, c'est une œuvre d'art de la collection du MoMA. Donc, on ne peut pas repartir avec. Mais cette œuvre est activée par un médiateur de 14h à 17h tous les jours. Donc, c'est pendant cette tranche horaire que vous pourrez vraiment rentrer dans le kiosque.
Et discuter, du coup, que ça redevienne un espace de discussion.
Exactement. Entre le visiteur et le médiateur, mais bien sûr entre les visiteurs entre eux aussi.
D'accord, mais c'est vrai que c'est compliqué des œuvres comme ça parce qu'on n'a pas, on n'ose pas trop s'avancer, on n'ose pas trop engager le dialogue, je trouve. Enfin, moi en tant que spectateur lambda.
Oui, bah c'est vrai que ça pose là aussi la question de la place de l'œuvre dans le musée et la manière dont on vient à traiter une œuvre d'art une fois qu'elle a été placée dans un musée, dans une exposition, qui est pour le coup encore une exposition ça crée une institution assez sacralisée, même si ce genre d'œuvre ne l'est plus. Et puis dans la galerie 8 au deuxième étage, il y a une œuvre de Romain Ondac aussi participative, mais là je vous laisse la surprise.
Oui, nous l'avons vue, en effet, mais on n'en parlera pas. Peut-être pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce qu'on peut revenir sur l'œuvre de Janet Cardiff ? J'aimerais bien qu'on en parle. Marie-Hélène.
Oui, c'était vraiment une œuvre super, super jolie, très, très artistique en fait. Elle changeait beaucoup. Donc en fait, pour vous expliquer, cette œuvre se situe à la fin de l'exposition dans la galerie 10. Donc elle est simplement composée de 40 haut-parleurs disposés en cercle qui diffusent une reprise du motet composé par Thomas Stallis, qui était donc un compositeur de la Renaissance. Et chaque haut-parleur en fait, sur son support, devient un corps virtuel qui représente l'un des chanteurs. Et donc le spectateur est invité à se promener autour de ces haut-parleurs pour entendre la voix spécifique de chacun des chanteurs. Donc à la fois, on entend ce spectacle, ce morceau qui est absolument magnifique. En plus, dans la pièce de la Fondation où ça résonne, il y a de l'écho, c'est magnifique. Mais en plus, à côté de ça, en se promenant, on a vraiment l'impression d'entendre le chanteur qui nous chante son morceau devant nous. Donc on a un panorama de voix et également des chanteurs qui existent dans leur singularité, même si au départ, on entend vraiment une belle harmonie. Ensemble. Et donc pour cette installation, Janet Cardiff avait travaillé avec une chorale d'une cathédrale où les sopranos sont des enfants. Donc on a vraiment cette voix angélique, très pure quand on arrive dans les aigus. Donc vraiment, je vous la conseille absolument, c'est magnifique.
Et toi du coup, Gabriel, si tu devais retenir peut-être une œuvre de l'exposition ou une partie de l'exposition qui t'a plu, enfin le mot de la fin quoi, je te sens.
Alors,
difficile de choisir une œuvre.
Difficile de choisir une œuvre, c'est ça. Elles sont toutes extrêmement différentes. On va des débuts de l'art moderne avec Cézanne jusqu'à des choses extrêmement contemporaines qui incluent les émoticônes, le jeu vidéo et l'art immatériel.
J'ai plus de mal, ça. Ouais.
Mais c'est vraiment
difficile.
Pour...
Mais c'est dans l'air du temps.
Voilà, ouais. C'est les nouvelles que ça a été acquis en tant que. Design visuel, en fait, design graphique. Donc c'est difficile, c'est vraiment une exposition à prendre dans son ensemble et à voir comme l'évolution de ce musée d'art moderne, bien sûr en relation avec l'évolution du monde de l'art, parce que c'est le propos de ce musée, ancré dans l'histoire, mais tourné toujours vers la modernité, au sens où l'entendait Alfred Barr, plus que contemporain. Et donc, je vous conseillerais juste de venir
voilà,
voir l'exposition. N'hésitez pas, du coup, à faire appel aux médiateurs, puisqu'ils sont présents dans tous les espaces. C'est quelque chose qui est assez unique sur Paris, d'avoir des médiateurs présents pour vous. Et surtout, toutes les demi-heures, il y a des micro-visites, donc courtes, de 20 minutes. Il y en a 4 différentes, à 4 niveaux différents. C'est gratuit, c'est sans réservation. Il suffit juste de se présenter au point de rendez-vous. Donc, ça vous permettra peut-être d'un petit peu mieux saisir la complexité de cette exposition. Et le vendredi soir, le premier vendredi du mois, il y a une nocturne événementielle qui va accueillir des événements en lien avec le MoMA. Et en général, c'est très tourné vers un public jeune.
Et ça peut être l'occasion de découvrir l'expo
tout à fait.
La nuit, à un moment où il y a peut-être moins de gens aussi.
Pendant les nocturnes événementielles, il y a assez de monde, mais il y a une ambiance aussi tout à fait particulière. C'est jusqu'à 23h. Sinon, si vous souhaitez des moments un petit peu plus calmes, les vendredis soirs, tous les autres, c'est jusqu'à 21h. Et effectivement, là, ça sera un petit peu plus tranquille.
Donc, une très belle exposition qu'on vous conseille d'aller voir et surtout de prendre le temps. Elle est longue, il faut bien compter 2 bonnes heures, comme chaque grosse exposition de la Fondation. Elle mêle aussi bien, donc, comme on l'a vu, des archives que des œuvres fondatrices. Et finalement, il y a peu de choses à critiquer. Hein. Prenez le temps d'y aller, de lire les cartels, de vous y faire guider par les médiateurs. Être moderne, le MoMA à Paris, est à retrouver à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 5 mars 2018. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique de Charlotte. Cette saison, fini les catalogues d'art, vous pouvez ouvrir grand vos oreilles. Chaque mois, je vous propose un parcours qui aura pour thème art et musique. Aujourd'hui, petit tour du côté de l'exposition Maria Baïkalas à la scène musicale, une rétrospective consacrée à l'une des plus grandes divas que l'opéra ait connue, une exposition à retrouver jusqu'au 14 décembre. C'est un parcours chronologique des jeunes années de la cantatrice grecque, née à New York en 1923, que nous propose Tom Wolfe, le commissaire de l'exposition, 40 ans après sa disparition. Ici,
Peu d'explications, peu de légendes, c'est l'artiste qui accueille et guide le visiteur. De sa voix parlée, elle se raconte à travers une série d'interviews diffusées de salle en salle. D'un côté, Maria Callas raconte Callas, donc l'artiste, la diva. Dès ses 9 ans, celle qui s'appelle encore Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos est poussée au chant par une mère exigeante. Métamorphose physique 20 ans plus tard, adieu la jeune fille un peu rondelette et place à une femme svelte et élégante. Callas est alors au fait de sa gloire. Elle fait la couverture des magazines, chante sur les plus prestigieuses scènes d'opéra. Vous la verrez entre autres briller dans deux de ses plus grands rôles, la Norma de Bellini et la Tosca de Puccini. À Milan, à Paris, à Chicago, partout, on se presse pour assister à ces représentations. Et d'ailleurs, vous aussi vous y aurez droit, car en plein cœur de l'exposition, une salle vous donne la chance de vivre ses concerts comme si vous y étiez, je ne vous en dis pas plus. Alors oui, Callas est une diva, mais n'oublions pas, elle est aussi une femme, Maria. Et l'exposition justement insiste bien sur cette dualité. Vous connaissez peut-être sa grande histoire d'amour avec le milliardaire grec Aristote Onassis. L'une des salles nous les montre radieux lors d'une croisière au milieu des années 60. On profite de la piscine, du bon temps entre amis. Mais ce bonheur est assombri quand, en 1968, Maria Callas apprend à la télévision le mariage d'Onassis avec Jackie Kennedy. Sa vie prend alors les contours de celle des personnages qu'elle a incarnés. Comme elle le dit elle-même, « J'ai souvent joué à l'opéra des Oréines qui meurent par amour, j'aurais fait pareil à leur place. » Peu à peu, Maria Callas fait ses adieux au chant. Elle s'essaye brièvement au cinéma, joue dans Médée, le film du réalisateur italien Pier Paolo Pasolini. Puis viennent les dernières années, Maria Callas part en tournée et transmet son expérience aux jeunes chanteurs. Un comeback ? À en croire la suite, cela s'apparente plutôt à une révérence. Car Onassis meurt en 75 et 2 ans plus tard, c'est à son tour de quitter la scène.
Museum Side.
Votre émission de critique d'exposition.
Et maintenant, c'est l'heure de notre tour de table des coups de cœur. Je commence par toi, Marie-Hélène.
Alors moi, c'est l'exposition qui a lieu en ce moment au 104, qui s'appelle « Continuer à se faire ensemble ». Donc c'est une grande exposition en partenariat avec la galerie Continua. Donc elle propose beaucoup d'œuvres, donc ça peut être de la photo, des installations, de la sculpture. Et elle réunit une vingtaine de galeries et d'institutions venues des 5 continents. Donc c'est vraiment un beau panorama de la création jeune contemporaine. Donc allez y faire un tour, c'est vraiment très intéressant.
Charlotte. Alors moi, je n'y suis pas encore allée, mais je compte bien aller voir Montmartre décor de cinéma au musée de Montmartre, qui est présenté jusqu'en janvier 2018. Donc cette exposition revient sur les décors, enfin sur Montmartre comme symbole de Paris, qui a inspiré de nombreux cinéastes, notamment Truffaut, Woody Allen. Et vous aurez la chance de voir une reconstitution de la chambre d'Amélie Poulain, donc un film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est devenu emblématique de Montmartre.
Super, et du coup, moi, mon coup de cœur, ce serait le Jardin secret des Hansen, la collection Ordrugard au musée Jacquemart-André, donc qui est en ce moment jusqu'au 22 janvier 2018, donc un couple de collectionneurs danois exposé dans un musée qui a été créé par un autre couple de collectionneurs. Donc ça donne une très belle collection avec des impressionnistes, Monet, Renoir, Morisot, Pissarro, Sisley, mais aussi Cézanne, Gauguin, voilà, on se régale, donc je vous conseille vivement d'y aller. Et voilà, Museum Side, c'est terminé pour ce soir. Merci à Sonia Voss, notre invitée. À vous les filles, Galadriel, pour ta première, bravo.
Merci.
Charlotte, Marie-Hélène et à toi Louis-Julien. On vous retrouve le dimanche 12 novembre à 20h et nous recevrons en première partie Evelyne Heyer, commissaire de l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme » au Musée de l'Homme jusqu'au 8 janvier 2018. En deuxième partie, nous évoquerons les deux expositions actuelles du Petit Palais, l'Art du Pastel et Anders Zorn. Bonne soirée et restez avec nous.